Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Suzelle Brou. Bonjour Suzelle.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence AASB, j'imagine, Atelier d'architecture Suzelle Brou.
Agence d'architecture,
c'est ça. Agence d'architecture.
Mais bon, atelier, c'est pas mal aussi.
Ouais. J'ai lu de vous sur une fiche du pavillon de l'Arsenal Mec des architectes, je cite, « Dès 1988, en binôme avec Laura Carducci, puis à partir de 1995 en solitaire, mais entourée de son équipe, Suzelle Brou a su construire un propos bâti et s'adapter aux multiples évolutions de métier. » Sa passion pour la technique et le détail lui a permis de réaliser les transitions pratiques que portent ses réalisations et ainsi de peaufiner son écriture. Son attention au mode d'habiter a été récompensée par des lauriers, parmi ces lauriers le prix des albums de la jeune architecture en 1989, le prix première œuvre en 1991 et une nomination à l'écart d'argent en 2011. Vous êtes membre de l'Académie d'architecture. Finalement, votre parcours est celui d'une architecte qui défend ardemment l'art de maîtriser l'œuvre. On va commencer par le début, si vous êtes d'accord. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et quelles ont été vos études?
Alors, c'est le début. J'ai grandi dans une famille d'enseignants depuis 3 générations. Plutôt littéraire, attaché à la laïcité, au bien commun, à la tolérance. J'ai donc une enfance libre, très bienveillante. Par contre, moi, j'étais plutôt bonne en maths et avec un côté rationnel. Et dans l'histoire familiale, ça amusait un peu. Il fallait choisir un métier. Et ingénieur, par contre, c'était trop aride, ça convenait pas. Par contre, l'architecture apparaissait comme une sorte de concrétisation des mathématiques. Il n'y avait aucun architecte dans la famille. C'était une histoire de mesures aussi, de chiffres, mais avec quelque chose en plus. La référence, c'était la star de l'époque, c'était Fernand Pouillon, un personnage magnifique. Et en plus, il avait écrit des livres. Et donc, voilà, c'était un métier qui pouvait me convenir. Et donc, j'habitais à la banlieue ouest, Saint-Germain. Et je suis entrée à l'école d'architecture la plus proche, à Nanterre. Et ça n'a pas tout de suite été, mais pas du tout, une révélation. Je ne comprenais absolument pas ce qu'on me demandait. Les seules références qu'on m'avait données, c'était un livre qui s'appelait « Architecture sans architecte ». Et du coup, il fallait sortir les projets comme ça, en inspiration, sortir les tripes. Et je ne savais pas du tout pourquoi quelquefois c'était bien et pourquoi c'était mal, pourquoi ça marchait, pourquoi ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, pour que ça marche, il fallait sortir des projets totalement insensés. Voilà, c'était une innovation, toujours avec des formes incroyables. Et donc, j'ai arrêté après la deuxième année. que j'ai passé principalement à Venise. J'avais de la famille à Venise, une sorte d'année en suspens, dans une ville en suspens, dans un temps qui passe pas vraiment et qui est une sorte de méditation permanente. J'avais aussi des amis qui étaient architectes, plus vieux que moi, qui m'ont mis des livres dans la main. J'ai beaucoup lu. Et Venise, ben, quelquefois on peut s'y perdre, mais quelquefois on peut s'y retrouver. Et donc je suis repartie en troisième année à Belleville, enfin c'était UP8 d'ailleurs. Et bon, la porte, ça y est, la porte était ouverte. J'ai vraiment beaucoup aimé le temps de l'école. On était un groupe, on travaillait beaucoup, tout le temps. C'était la période aussi post-punk. Et donc, il y avait le rock et l'architecture. Ça allait absolument ensemble et c'était absolument ma vie. C'était exactement ça. Donc voilà. Et après l'école, j'ai eu, si on continue, un parcours assez classique. J'ai peu travaillé en agence. Je faisais toujours un peu la même chose. Et avec Laura Carducci, que j'avais connue à l'école, on a fait des concours internationaux. On a été primés. On a présenté les albums de la jeune architecture, comme vous avez dit. On a gagné un projet d'école et on a eu le prix de la première œuvre. Donc tout ça allait très vite. Et ce projet d'école, ça a été mon premier chantier. Et là, pas une révélation, mais disons la condition du métier. À un moment donné, on réalise que tous ces ouvriers, ces conducteurs de travaux, ces ingénieurs, construisent le mieux possible ce qu'on a dessiné. C'est un sentiment totalement unique, à la fois de surpuissance et de reconnaissance, d'une certaine humilité. On ne travaille pas tout seul, il y a tous ces gens-là qui travaillent là. Je pense que c'est un des seuls métiers qui à ce point, à cette matérialisation de l'idée. Et le chantier, ça a été un peu aussi le discours que j'ai fait quand je suis rentrée à l'Académie d'architecture. J'ai parlé du chantier. Et le chantier, c'est un monde en soi, fermé, presque une hétérotopie en mouvement, à durée limitée, avec ses règles, ses codes, ses langages, ses signes. Et quand on suit ces chantiers, on ne peut plus dessiner pareil, jamais. Surtout dans un contexte économique omniprésent et un contexte urbain, la question du chantier, de comment on dessine un projet en pensant à la manière de le construire et à son organisation de construction. Donc voilà, je pense qu'il faut que les architectes suivent leur chantier, absolument.
Bon, le temps est passé très vite.
Le temps est passé vite, très vite, et sans qu'on s'en aperçoive beaucoup avec Laura. Les choses s'enchaînaient. On était dans un plateau, dans un hôtel particulier du 9e. On était 4 agences. Et il y a eu une crise en 93-94. Et on a éclaté. Voilà. Et le plateau a aussi éclaté. Tout le monde est un peu parti, chacun de son côté.
Chacun avait envie de s'exprimer en nom propre.
Oui. Alors, c'est toujours un peu dur, les ruptures. Et en même temps, le premier projet que j'ai fait seul, c'était une sorte de liberté incroyable. Je me rappelle du projet de la maison de quartier des Courtillères à Pantin, où voilà, j'ai pu expérimenter une sorte de manière de construire rationnelle, avec du béton préfabriqué. J'ai pu aller voir les matériaux dans les ateliers de préfabrication. Et je pense que oui, j'ai mis en place, en tout cas dans ce projet-là, une manière de construire et peut-être une manière aussi de faire les projets qui commencent par la recherche, la réflexion d'une figure idéale. Alors, ce n'est pas du tout une figure formelle, c'est une sorte de schéma préspatial organisationnel qui se forme en déconstruisant un programme. Parce qu'il y a un programme et il y a un fonctionnement. Et entre le programme et le fonctionnement, il y a une idée. Et c'est ce qu'on va... Alors, je suis pour que les projets fonctionnent très bien. C'est le contrat qu'on a avec son maître d'ouvrage. Mais le fonctionnement n'est pas le programme, n'est pas la réécriture d'un programme. Donc, il y a cette figure idéale que j'ai commencé à mettre au point. C'est une sorte d'archétype, d'organisation, où arrive cette déconstruction du programme en pièces que j'appelle statiques. C'est-à-dire, ça peut être les salles d'université, les salles de classe, ça peut être les salles, les bureaux, les chambres, c'est-à-dire des formes qui sont statiques, dont on connaît à peu près la géométrie, on fait pas des salles. Il y a eu des salles de classe en forme de fleurs, mais enfin bon, c'était pas du tout dans l'idée. Donc voilà, c'est des géométries assez stables, connues, Et il y a les espaces dynamiques.
Les variants,
mm-hmm. effectivement. Et les surfaces dynamiques, c'est les surfaces où on se déplace, qui font que les gens se croisent, se rencontrent, se parlent, et qui relient en fait tous ces espaces statiques. Et ce qui fait la lecture d'un bâtiment, ce qui fait aussi l'écriture, je pense, d'un architecte, beaucoup plus que l'image qui donne des bâtiments, c'est cette manière de lier les espaces statiques par des espaces dynamiques. Et d'ailleurs, quand on prend en photo un bâtiment, par exemple, on va prendre une école, on ne photographie pas la classe ou le bureau de la directrice, on photographie le chemin qui y mène, c'est-à-dire la circulation, mais la cour de récréation aussi. C'est un espace qui n'est pas un espace informel, parce que bien sûr, ils ont des formes, mais des espaces qui varient à chaque fois et qui sont l'essence de l'architecture. Et donc, cette figure idéale, à un moment donné, parce qu'elle est assez abstraite quand même, on fait revenir dedans le site, bien sûr, on la réinstalle dans son site, dans sa situation, avec ce que j'appelle le monde sensible, c'est-à-dire le vent, le climat, la lumière, le paysage, la ville, les espaces extérieurs et effectivement la réglementation aussi urbaine. Bon, j'ai construit principalement en milieu urbain dense, ce qui en fait un projet totalement contextuel à la fin. Mais reste l'idée de la figure idéale, qui est là au fond du projet. Et quand on le travaille avec les gens de l'agence, reste un peu ce fil conducteur qu'il ne faut pas perdre, évidemment.
Alors avant d'aller plus avant dans vos projets, parce que vous êtes déjà rentré passionnément dans le sujet, j'ai une question. Aujourd'hui, vous avez votre agence, vous avez beaucoup de références. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Un peu, est-ce que vous vous imaginiez à la tête d'une agence? Voilà.
Alors, pas du tout. On m'a déjà posé cette question-là et j'arrive pas à savoir, même à cerner, ce dont je rêvais à l'école. Les choses se sont enclenchées. Je pense, oui, j'avais envie de construire, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'avais envie d'avoir une agence, mais je ne savais pas non plus du tout ce que c'était. Donc, je ne pouvais pas vraiment rêver. C'est quelque chose qui s'est déroulé. Je pense que cette expérience, en tout cas, de la construction, de la mise au point, quand même, d'une manière de faire, d'un ordre construit, oui, c'était sûrement quelque chose que je cherchais et qui a répondu. Je pense que ça me convenait absolument, oui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Si, très bien. alors maintenant, on va rentrer dans vos projets. Vous parliez tout à l'heure d'un projet qui était un peu fondateur de votre approche. On lit sur les différents supports qui vous concerne que vous souhaitez dessiner tout en pensant à la réalisation du bâtiment, c'est ça?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets et à l'intérieur, peut-être citer les emblématiques, enfin, même s'ils comptent tous, j'imagine.
Oui, ils comptent tous, c'est toujours des histoires, les projets. Je dirais des belles histoires, mais elles sont d'autant plus belles qu'elles sont faites avec des gens. Et c'est ça qui les rend quelquefois plus belles. C'est vraiment, à un moment donné, une entente qui s'est faite sur un projet. Et donc, oui, je vais parler d'un projet qui est la résidence Diderot à Paris. À un moment donné, effectivement, on a fait ce que j'appelle du logement thématique. Et la résidence Diderot, c'était un bâtiment qui avait été construit dans les années 70 dans la fondation Eugène Napoléon, qui avait été construite par Itorf. Un projet très axé. Le 19e, c'était pour le deuxième empereur, Napoléon III, et très axé, très classique. C'était un espace fermé. Et dans les années 70, est arrivé un bâtiment construit années 70, c'est-à-dire avec des refends et des planchers de 15 cm, tous les 2,50 m. Donc un bâtiment très rigide, qui recevait des jeunes filles, foyer de jeunes filles, et qui s'est retrouvé très vite plus du tout aux normes. Donc c'était un projet de la RIVP. C'était mon premier projet aussi de restructuration, qui sont des commandes qui arrivent maintenant et qui sont arrivées vraiment à cette époque-là et qui devenaient intéressantes. C'était un concours, on l'a gagné. D'abord, je me rappelle, les façades n'étaient pas terribles. La perce était atroce et on l'a gagné parce qu'il y avait l'explication du processus. Et c'est assez rare qu'il y ait un jury, à un moment donné, qui reconnaisse un process en se disant « Bon, on a choisi des bons architectes, donc ok, là c'est vraiment moche, mais ça va pouvoir s'arranger. » Je me rappelle de la directrice de la RIVP qui m'avait annoncé que j'avais gagné. que je pensais pas du tout vu ce qu'on avait rendu, et qui m'a dit oui, mais peut-être qu'on pourrait changer la façade, avec énormément de tact, énormément de bienveillance en fait. Et ça aussi, c'est assez rare. Et j'étais très contente parce qu'effectivement, il fallait vraiment changer ça. Et on a retravaillé pour avoir un bâtiment qui était complètement métamorphosé. Ça a été une métamorphose du bâtiment qu'on a construit. C'est un bâtiment béton rigide et on a décidé que les extensions ne pouvaient pas être de la même manière, construites de la même manière, qui avaient posé problème. Donc on a construit avec une structure métal, toutes les extensions, avec le moins de poteaux possible, de manière à ce que, à terme, bon, c'était une rénovation très lourde, hein, que à un moment donné, que le bâtiment puisse réutiliser, puisse changer de programme. Et à ce moment-là, on a construit nos bâtiments neufs autrement, en disant que les bâtiments pouvaient avoir une autre vie, qu'on pouvait intervenir, ou quelqu'un d'autre plus tard pouvait intervenir de manière à ce qu'il soit le plus adaptable possible, donc avec des structures. Ça renforçait mon idée de structure ouverte, capable et d'intérêt à la technique.
Oui. D'ailleurs, en structure métallique, on peut obtenir des grandes portées. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, les écarts se sont resserrés. Mais à cette époque-là, on pouvait avoir vraiment de grandes portées, c'est-à-dire des espaces libres sans retomber. Est-ce que vous avez pu le mettre en œuvre, justement, dans ce bâtiment ?
Alors, c'est une extension, donc ce n'était pas vraiment un grand bâtiment qui se raccrochait donc, à ce bâtiment en béton. Et ça a été plutôt ce que j'appellerais, comme aux États-Unis, les frames. C'est-à-dire, il y avait les façades qui tenaient, c'était vraiment une sorte de...
Mécano.
De mécano, et pas du tout des grandes portées pour porter des grands espaces. Ça a été vraiment un framework là-dessus. Oui. Ouais. Mais par contre, le métal dans le bâtiment, ça a été un vrai problème réglementaire. Pour les pompiers, pour le feu.
Parce qu'en France, on n'a pas l'habitude.
Ça a été, oui, voilà.
Vous en êtes sorti ?
Absolument.
Vous avez des nouvelles de cette réalisation ?
Oui, c'est celle qui a été nommée à l'équerre d'argent.
Oui.
Et c'est aussi très bien que ça a continué tout ce dialogue avec le maître d'ouvrage, parce que le projet change toujours un peu pendant les concours. Et pendant l'appel d'offres, c'est une entreprise générale. Et le maître d'ouvrage a choisi un groupement d'entreprises qui répondait exactement, intelligemment, au projet. C'était un groupement d'entreprises, une entreprise générale qui était Paris West, plus une entreprise de métal spécifique, plus une entreprise qui faisait uniquement l'enveloppe du bâtiment, qui était assez, assez spécifique parce que c'était une enveloppe en aluminium anodisé qui transformait complètement le bâtiment, qui était un seul matériau, on était généralement un seul matériau par bâtiment qui constitue l'enveloppe, qui répond donc à ce que j'appelle le monde sensible et qui répond à la représentation aussi par rapport à la ville. Et donc cette entreprise, qui n'était pas du tout la moins disante, a été choisie, bien sûr avec mon accord, en m'écoutant. Et ça a été un chantier d'autant plus magnifique que pour que des gens puissent faire du métal, il fallait un excellent conducteur de travaux.
Oui. Au niveau du plancher, ça se passe comment dans ce projet ?
Au niveau du plancher, eh ben, c'est toujours très... comme le métal, comme tout, comme la façade qui était aussi en métal, c'est des couches. C'est-à-dire on a vraiment la structure en métal et on a en dessous tout le métal, sauf à certains endroits communs dans les circulations, dans toutes ces espèces dynamiques, et complètement empaqueté par des cloisons. J'ai fait une école aussi à Épinay, et c'était Mimram qui était l'ingénieur, on a fait une très grandes portées en métal.
Et des cloisons amovibles.
Et voilà, et là il a fallu aussi faire attention, mais là on a pu montrer tout le métal dans l'école, donc ça c'était possible, alors que dans le logement on ne peut pas.
Oui, pour des questions de protection au feu.
Mais métal c'est comme le bois, en fait c'est aussi de la préfabrication, tout doit être pensé avant. Et comme le bois maintenant, ce qui est un peu dommage d'ailleurs pour le bois, tout doit être protégé, on ne peut plus voir le bois dans les bâtiments.
Ça dépend quand même des programmes. Encore.
Oui, ça dépend des programmes.
Oui.
Ouais, ouais.
Donc, le bâtiment de la RIVP, vous n'étiez pas en plancher sec, c'est ça ? Vous étiez en bac acier et dalle de
oui, absolument.
Béton collaborant, c'est
oui,
ça ?
Oui, si c'était la question, oui.
Oui, oui, oui. Voilà. Enfin, c'est ce que j'essayais de vous amener.
Voilà, j'avais pas bien compris.
Et pour le coup, c'était intéressant parce que vous étiez finalement dans la lignée des gens prouvés, de Marcel Lotz, etc.
Alors, j'irai pas jusque-là.
Vous iriez pas jusque-là ?
Non, non. Non, j'ai pas du tout. Je peux travailler dans n'importe quel matériau.
Oui. Oui, vous n'étiez pas dans un discours militant.
Non, pas du tout. Mmh. Enfin, voilà, ça doit s'adapter. Je choisis le matériau à peu près en même temps que la fin. Ça marche avec cette figure idéale à un moment donné. Mais le matériau, ça peut être du béton préfat, ça peut être des prémurs, ça peut être du bois. Mais par contre, je vais de plus en plus vers la préfabrication, qui peut être le métal, qui peut être le bois, les prémurs thermiques, les salles de bain préfat. D'autant plus qu'on est dans des sites denses, urbains denses, tout ce qui peut être fait en atelier permet d'avoir des chantiers très bien finis et une super organisation de chantier. Et comme je dis, il faut qu'il y ait synthèse avant. Et donc, on a des bonnes entreprises et des bons conducteurs de travaux et ça change tout un chantier.
Bon. Un autre projet ? Ou d'autres ?
Alors oui, il y a un autre projet qui... Alors, je ne suis plus associée complètement, mais je fais des projets avec des associés. Et donc, on a fait un concours avec TOA et MAST sur un projet de Clichy-Batignolles où il y avait donc 2 mètres d'ouvrage, la SNI et Paris Habitat. 3 projets, 3 architectes. Et donc, on s'est partagé les programmes. C'est-à-dire que TOA prenait les logements de Paris Habitat. Moi, j'avais l'EHPAD de Paris Habitat. Je suis toujours un peu dans les bâtiments thématiques, logements thématiques. Et MAST avait les logements SNI. Et au bord du parc Luther King, très vite, on n'a pas du tout dit, tiens, voilà, il y a un plan MAST, et puis chacun est dans sa parcelle. Comme c'était un macro-lot, on faisait des ateliers toutes les semaines. Et les parcelles variaient suivant nos besoins on négociait chaque semaine nos projets, les uns avec les autres. Donc c'était absolument passionnant, c'était bien. On attendait le jeudi pour confronter nos idées. Et à un moment donné, il est apparu qu'il n'y avait pas 2 projets, mais 3. Et que donc les pattes devaient revenir sur le devant de la rue, avec une entrée spécifique, lisible, qu'on n'avait pas à être les vieux en fond de parcelle. Quoi. C'était indécent. Et donc, ça a absolument changé entièrement le projet, parce qu'un EHPAD, c'est 4 niveaux, et que le front de rue à Clichy-Batignolles, c'est 10 niveaux. Et donc... Théoa, qui avait le même maître d'ouvrage que l'EHPAD, a dit bon, bah, très bien, combien il faut de logements pour les mettre au-dessus de l'EHPAD ? Et il m'a cédé 18 logements, exactement. Et à partir de là, bien sûr, il y a eu. C'était une déprogrammation, on changeait le programme, parce que bien sûr, il y avait autre chose. Mais à partir de là, tout s'est enchaîné. Chacun rentrait chez soi, les voitures dans le parking, les pompiers tournaient autour du bâtiment. Il y avait une sorte de lisibilité, à la fois urbaine et à la fois de fonctionnement. Ce qu'on voulait, c'est faire le meilleur projet possible et donc le gagner. Ce n'est pas que chacun garde ses 100 logements, etc. Donc, il y a eu vraiment un processus assez généreux, assez tolérant de ça. Et ce projet, je l'ai entièrement construit en prémure thermique, en béton, avec des salles de bain préfat, évidemment. Tout ce qui a pu être construit en préfat. Et ce qui était assez... c'est des bâtiments pérennes, c'est des bâtiments béton, donc voilà. Et ce qui est assez, qui donne d'ailleurs une atmosphère très très stable à l'intérieur des bâtiments. Et par exemple, quand tous les bâtiments se construisent en béton, on a tout le béton qui monte à toute vitesse. Nous, on était encore au sol parce qu'il fallait faire toute la synthèse. Et ensuite, les bâtiments d'à côté, il y avait les échafaudages pour mettre l'isolant, et ensuite encore pour mettre les châssis et la vêture. Et nous, tout à coup, le bâtiment, il est monté, fini. C'est-à-dire, chaque niveau montait, fini, avec la technique qui arrivait en même temps. Il était un peu en retard, mais à la fin, bon, il grandissait dans son aspect fini. Et ça, c'est aussi pour les maîtres d'ouvrage très, très agréable.
D'accord. Qu'il n'y a pas le gros œuvre et après le second œuvre. Là,
oui.
C'est imbriqué et ça monte.
Et ça monte ensemble.
Ensemble.
Et ça monte du coup bien sûr, parce que tout a été vu avant. On ne repioche pas un préfat. On ne rentre plus jamais dans une salle de bain qui est arrivée. Alors qu'une salle de bain, par exemple, c'est 6 corps d'état pendant 2 ans dans 2 mètres carrés. Bon ben. C'est un carnage.
C'est la patouille.
C'est un carnage. On arrive, il y a 20 réserves dans les salles de bain. Quand on a 150 chambres, c'est 20 réserves multipliées par 150. Elles ne sont jamais levées. Mmh. Et ensuite, on a des sinistres en permanence.
Alors, sur cette réalisation à Batignolles, ce que je trouve fort intéressant, oui, c'est finalement, dans cette fabrication de la ville, on gagnerait à ce que chaque... équipe de maîtrise d'œuvre discute avec le voisin.
Exactement. Mais ça, alors, je crois que c'est Rem Koolhaas qui disait « l'urbanisme crée un possible que l'architecture réalise ». Et je crois que le problème du logement, bon, je ne suis pas arrivée encore à ça, mais le problème du logement, qui pour moi a quitté le domaine de l'architecture actuellement, la plupart des bâtiments de logement ont quitté le domaine de l'architecture, contrairement au logement thématique, est un problème d'urbanisme. On est maintenant dans un... Beaucoup, je ne vais pas du tout me mettre à dos tous les urbanistes, mais dans un urbanisme séparatif où les projets arrivent solitaires au milieu de leur parcelle parce que c'est plus facile à construire, bien sûr. Mais cette façon de ne pas regarder le voisin, de ne pas négocier avec le voisin, donne une sorte de surinvention du volume, surintérêt sur le volume, sur l'innovation du volume. Et inversement, un appauvrissement incroyable actuellement des surfaces intérieures. Bon, on est en train de le dire, c'est pris en main maintenant, il y a des commissions qui le font. Mais en parlant du logement pur, alors qu'il faudrait parler de l'urbanisme, enfin d'agrandir, et comment on fait pas seulement un logement dans son bâtiment, mais le bâtiment de logement dans la ville et dans les plans d'urbanisme. Mmh. Voilà, le fait de pouvoir se raccrocher, le fait de pouvoir quitter ce que j'appelle un urbanisme solitaire et puritain, personne ne se touche, donne des bâtiments un peu insensés quand même.
Vous faites partie de cette catégorie d'architectes aptes à parler volume, aptes à parler trois dimensions. Et j'ai l'impression, paradoxalement, aujourd'hui, on a une jeune génération très sensibilisée à tout ce qui est 3D. Et justement, paradoxalement, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup moins de volume. Est-ce que vous vous confrontez à cette évolution ou c'est peut-être une lubie de ma part ? Je sais pas.
Non, il y a une maîtrise assez magnifique des outils informatiques. Vraiment, quoi. Ils sont vraiment très forts. Et donc, une sorte d'inventivité même, de forme, de recherche. Je ne mets pas tout le monde, mais ils l'ont tous. Mmh. Mais, je vais un peu revenir à moi pour revenir un peu, un peu à autre chose. Moi, je suis un peu plus dans la... Je ne suis pas la même génération. Un peu plus dans la neutralisation des signes. Plus dans une... Il y a un seul matériau, on est au plus près de certaines choses. Oui, une neutralisation du signe. Les bâtiments n'ont pas besoin d'être compliqués. En fait, je ne sais pas dessiner les bâtiments compliqués, peut-être parce que je ne sais pas non plus les construire. Voilà. Et donc, je pense qu'il manque dans les écoles, peut-être dans la formation, il y en a qui le font tout seul. Mais si j'ai un conseil à donner aux architectes maintenant, c'est d'acquérir une culture constructive, d'aller à l'étranger. Parce qu'on ne l'a pas en France, acquérir cette culture constructive qui permet, je pense, justement, l'innovation et l'inventivité. On ne peut pas dessiner des formes, des images magnifiques, et de lâcher ça aux ingénieurs, aux descripteurs, etc. Il faut savoir parler avec eux, regarder avec eux comment les choses se font, pour arriver à des bâtiments qui sont bien construits et qui donc répondent d'ailleurs à l'innovation qu'on veut faire. Et ce point de la culture constructive, c'est pas faire l'ingénieur, mais juste la culture constructive permet aussi non seulement de parler aux ingénieurs, aux techniciens, aux entreprises, en disant non, ça se fait pas comme ça, ça c'est comme ça, je sais que c'est ça, et aux maîtres d'ouvrage. Parce qu'on a une perte de crédibilité incroyable vis-à-vis des maîtres d'ouvrage qui prennent de plus en plus d'AMO pour contrôler tout ce qu'on fait, parce qu'on n'arrive plus à leur parler que... lyriquement, d'invention, de création, de choses qui finalement sont pas exactement leur monde non plus. Donc voilà, je ne sais pas si c'était votre question, mais revenir derrière l'image à cette culture constructive qui va permettre de construire l'image, comme elle est pensée.
Si, c'est parfait. Vous n'avez pas réalisé que des logements ?
Alors non, je n'ai pas réalisé que des logements, même pas mal de bâtiments publics, d'équipements publics. Là, j'ai un chantier de restructuration d'un bâtiment, encore une fois, construit dans les années 70, j'aime bien, à Orsay. Donc c'est un bâtiment qui était avant un, un bâtiment de, pour les mathématiques. C'était des petits labos et des bureaux de mathématiques.
C'est sur le plateau de Saclay.
C'est sur l'université d'Orsay. C'est à côté dans la première université d'Orsay qui a été construite. C'est un campus sur une colline extrêmement verdoyante. Et cette restructuration, c'est des projets qu'on a maintenant de plus en plus. Et on met un peu au point une méthode qui est, bon, effectivement, avec la figure idéale. Mais là, dans le cas d'un bâtiment construit, on appelle ça une méthode spatialo-programmatique. On a dit, bon, voilà, il y a un programme et il y a un bâtiment. Donc, on ne peut plus faire la figure idéale. Et donc, comment, à un moment donné, on déconstruit ce programme par rapport à la spatialité de bâtiments qui, de toute façon, ont toujours des opportunités et des beautés. Même ces bâtiments qui sont quand même assez rudes, mais assez rationnels, finalement, et qui fonctionnent bien pour être pris. Voilà, ça, c'est pas aux normes, il faut faire beaucoup de choses, mais ils sont facilement réadaptables.
C'est le fameux exosquelette ?
Voilà, il y a quelque chose de ça. Ouais. On a du poteau-poutre, et on peut revenir là-dedans, sachant que d'autres gens pourront revenir après. Et je continue à peu près cette idée. Petite, quand on partait en vacances, on s'arrêtait en Anjou. On faisait un stop en Anjou. Et puis on visitait un des châteaux de la Loire, la ville, bon, etc. Et je me rappelle avoir été totalement fascinée, voire choquée par Chambord, qui pour moi était un truc pas du tout rationnel. Il y avait cette sorte de masse énorme, presque rébarbative, avec des salles immenses, inhabitables, qui n'étaient pas meublées, contrairement aux autres châteaux qu'on visitait de temps en temps, traversées par une sorte de dentelle, cet escalier qui nous faisait perdre l'orientation. On arrivait, on partait quelque part, on arrivait, on en reprenait un autre, on arrivait ailleurs. On était totalement désorientés dans cet
escalier à double révolution.
Voilà, l'escalier Chambord, donc. Donc il y avait cette masse, cette dentelle d'escalier désorientée. Et ensuite, on arrivait sur le toit et on avait une sorte d'exubérance totalement folle des toits et des choses qui n'allaient pas du tout avec la base. Et je ne pensais pas en tant que collage à l'époque, mais ça m'avait... moi, il y avait quelque chose qui allait à la fois pas du tout ensemble et qui était absolument magique. Et je ne vais pas comparer mes bâtiments à Chambord, mais à un moment donné, il faut se dire que si on construit de manière radicale quelque chose, et quand on intervient aussi de manière radicale, avec son époque, son vocabulaire, peut-être que ça devient des choses qui sont absolument intéressantes, qui ne sont pas pures, mais qui sont une sorte de bâtiment qui raconte incroyablement plein de choses. Voilà. Et peut-être on peut reprendre toutes ces restructurations un peu de cette façon-là. Bon, par rapport à mes débuts, les commandes ont changé. La manière, les maîtres d'ouvrage, l'argent, les commandes ont changé. Et on a beaucoup plus de restructurations, extensions, démolitions partielles, transformations de bâtiments avec des commandes privées où il faut qu'on accompagne le maître d'ouvrage, où on évolue, où le programme évolue, les bâtiments évoluent avec eux. Il faut qu'on les accompagne, ils ne sont pas toujours entièrement sachants. Ils font aussi pour eux, donc avec une autre manière de voir, c'est un partenariat. Ça a changé nos manières de faire, on n'est plus concours, isolé. Aller, études, appel d'offres, voilà, c'est vraiment autre chose, quoi. Et c'est aussi très, très intéressant.
Donc, ça a évolué dans le bon sens ?
Dans un autre sens, ouais, c'était très bien avant, mais voilà, il y a ça, et c'est aussi très bien, ouais, vraiment.
Comment est composée votre équipe ?
Alors, il y a un noyau dur, qui est de deux, je dirais, chefs de projet, qui est Anne-Laurence Ricard et Romain Perraudin, et une secrétaire administrative qui est beaucoup plus qu'administrative. C'est une personne qui intervient aussi, qui a une culture, qui intervient dans les projets, qui est Séverine Payet. Et autour de ça, on fait des projets un peu quand même les uns après les autres. Le fait qu'on fasse les chantiers, on est très investi dans les projets. Et il y a ensuite des architectes, mais ça peut être aussi des stagiaires, ça peut être aussi des gens qui arrivent d'Erasmus, qui interviennent et qui restent souvent le temps d'un projet. Tout le monde fait du chantier, évidemment. pour qu'ils aient cette idée-là. Et d'ailleurs, certains architectes disent waouh, c'est pas mon truc. Et il y en a où qu'on pensait pas et qui se retrouvent à parler sur les chantiers avec tout le monde, à faire un travail excellent.
Pour un jeune architecte, votre agence, c'est une agence idéale pour apprendre sur le chantier.
Alors, oui, pour apprendre sur le chantier, comme on fait, bien sûr. C'est pour faire. D'ailleurs, ils font un peu le circuit total. Donc, ils sont là pour 4-5 ans minimum.
Comment imaginez-vous l'avenir ?
Alors,
de manière globale et à l'échelle de votre agence, comme vous voulez, en fait, de manière ouverte.
Oui, j'en ai un peu parlé de ça. C'est-à-dire, ce que j'ai fait aussi après le projet de Clichy-Batignolles, c'est de pouvoir m'associer avec d'autres architectes sur des plus gros projets. Là, on est en appel d'offres pour un projet de 170 logements, de démolition, reconstruction, de 170 logements à Elle et Rose pour toi et joie, dont je suis mandataire. Et on s'est associé à trois, ce n'était pas obligatoire. On a aussi gagné le projet, je pense, un peu à cause de ça, toujours cet urbanisme de négociation entre architectes. Et ça, je pense que c'est une manière de travailler très intéressante, qui permet d'avoir des bons projets, qui permet toujours d'avoir une discussion avec d'autres équipes.
Là aussi, vous en avez déjà un peu parlé, mais quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ?
Ben voilà, de partir voir ce qui se passe ailleurs, dans des pays qui font soit de la polytechnique, et ça peut être l'Espagne, ça peut être la Suisse, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Angleterre, ça peut être voilà, des pays, la Hollande, où la personne de l'architecte aussi est reconnue, où le travail de l'architecte est reconnu, parce que je pense qu'il a cette culture constructive. Voilà. Après, c'est Francis Bacon qui dit l'imagination, tout le monde l'a. Les enfants l'ont, tout le monde a l'imagination. Après, il faut passer à la réalisation. L'artiste passe de l'imagination à la réalisation. Et l'architecte, voilà, il fait ce passage de l'imagination, de la création, avec en plus de l'artiste, c'est pas totalement un artiste, qui doit se prendre le terrain, le programme, l'équipe, toutes les interventions, l'argent, bien sûr, qui en fait un métier d'ailleurs unique. Donc oui, je pense que tous les étudiants sont créatifs. C'est pas ça qu'il faut leur demander. C'est leur demander d'avoir une culture technique.
Très intéressant. Un mot de la fin ?
Un mot de la fin ? Alors bon, ça va être pour remercier tous les architectes qui ont travaillé à l'agence, tous mes maîtres d'ouvrage, tous mes ingénieurs même avec qui j'ai pu avoir des bonnes discussions, les paysagistes qui sont des vrais partenaires dans les projets, tous les ouvriers qui ont fait les projets, qui ont c'est quand même un dur métier aussi de faire ça.
Les femmes architectes, c'est pas un sujet ?
Ah, la femme architecte. Alors, c'est un drôle de sujet. C'est un drôle de sujet. Bon, que j'ai pas voulu me poser pendant pas mal d'années. Parce que je venais d'une famille où les femmes travaillaient depuis trois générations quasi à l'égal des hommes. Où j'ai jamais eu... j'ai jamais dit non, tu n'allais pas faire ça. Je suis rentrée dans une école. Alors, UP2, c'était un peu spécial quand même. Il y avait encore un truc un peu... vieux beaux-arts, mais j'en suis partie. Donc,
vieux maître.
Ouais, vieux maître. Bon, sortez vos tripes sur la table. Bon, bah non, c'était pas tout à fait ça. Mais bon, en même temps, ça me... Enfin...
Ça vous dérangeait pas ? C'est anecdotique, c'est passé ?
Ouais, j'étais pas du tout... c'était à part. Et à Belleville, il y avait des femmes profs. Elles avaient fait le boulot avant nous, quand même. Il y avait Marie-Christine Grandieu, il y avait Didier Girard. Bon, tout ça, c'était des femmes qui construisaient, qui étaient profs. Donc, bon, voilà. Et puis après, bon, j'ai fait l'agence avec Laura. Donc, bon, tout ça... Il y a quelques petits... Il y a peut-être anecdotes sur le premier projet qu'on a fait, qui n'était pas l'école, d'ailleurs, mais qui s'est arrêté, qui était un projet de logement à Paris. Premier rendez-vous, on arrive. C'était avec... pas le maître d'ouvrage, mais il y avait le géomètre, etc. Enfin bon, il n'y avait pas de bâtiment, il fallait regarder. Donc on est arrivé avec, à l'époque c'était les dessins sous le bras, et puis on était en scooter, donc on arrive avec les casques, et puis bon, la réunion, et puis on attend, et puis bon, l'heure, enfin, les minutes passaient, Et à un moment donné, on a dit, bon, on commence la réunion. Et les personnes nous ont regardé, on a dit, non, mais on attend les architectes. On a dit, non, mais les architectes, c'est nous. On était jeunes, c'est vrai, mais bon. Personne ne nous attendait du tout, quoi. Il y a eu un malaise. Et puis bon, après, la réunion s'est faite. Ça nous fait vraiment rire, ce genre de choses. Il y a une autre chose qui ne m'a pas du tout fait rire, quand même. C'est vers les années, avant les années 2000, les concours sont devenus anonymes. Donc j'étais retenue sur assez gros concours. D'ailleurs, je me suis demandé après coup si le fait que je m'appelle Suzelle EL, on ne prenait pas pour un homme. Daniel, Michel, Gaël, je ne sais pas. Et donc, on a fait les concours, ils étaient anonymes. Et il y a une année où j'en ai gagné 3 de suite. Et à chaque fois, je les ai reperdus. Quand le maître d'ouvrage m'a vu, je les ai perdus. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ce n'est pas les projets qui sont un problème, parce que je les ai gagnés, c'est donc moi. C'est ma personne. Et donc, si je perdais les projets, je pourrais m'améliorer. J'irais combattre, etc. Mais moi, je ne peux pas me changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, c'est quand même...
J'ai failli fermer l'agence, quand même. C'était 3 gros projets, on s'était investis. Alors, c'était bon sur 1 an et demi, sur 18 mois. C'était des projets culturels.
Oui, j'allais vous demander le programme.
Voilà. Et donc, après, je me suis dit, bon...
C'est fou, excusez-moi, je vous interromps. Sur des projets culturels, normalement, l'ouverture est plus grande?
Non, elle est plus fermée. Elle est plus fermée. C'est là le plafond de verre. C'est pas qu'une femme puisse construire, il n'y a aucun problème. Plutôt le logement et plutôt les écoles. Mais les projets...
Les gros projets...
Oui, ou les projets emblématiques, comme les projets culturels, comme les projets d'hôpitaux, même les projets de bureaux, etc. Ben là, il y a un plafond de verre, quand même. Et alors, c'est en train un peu de changer. Il y a des architectes femmes comme Manuel Contran, comme Pascal Guédo, Corinne Vezzoni, ça y est. Elles y arrivent, quoi. Elles ont mon âge, hein. Qui arrivent vraiment à faire des projets. Et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Bon, je ne savais rien faire d'autre que de l'architecture, donc bon, de toute façon, je n'avais pas arrêté. Et je me suis dit, avec la maturité, peut-être... Ça va venir effectivement. C'est ce qui s'est fait. J'ai quand même. Mais non, il y a ce plafond de verre sur le programme.
Bon. C'est encore une bataille à gagner.
Ouais, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Ouais, ça va venir.
Merci infiniment pour votre généreux témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. À bientôt dans Comme d'Archi. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.